Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h, il se tient prêt à mes côtés pour vous faire du bien, vous rassurer s'il le faut. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors au programme aujourd'hui, nous allons décrypter tous les secrets du sommeil des enfants. Cerveau, croissance, apprentissage, bien dormir quand on est petit, c'est important pour tout ça et bien d'autres raisons encore. Le problème, c'est que de nombreux enfants dorment mal, alors comment les aider à se coucher au bon moment pour eux, faire en sorte qu'ils s'endorment plus vite et qu'ils passent des nuits paisibles pour nous guider. Dans les bras de Morphée, notre invité aujourd'hui, ce sera la psychothérapeute Isabelle Fidioza. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, focus avec le docteur Jimmy Mohamed sur l'automédication. Quelles sont les précautions notamment à prendre quand on soigne certains bobos tout seul à la maison ? Il nous dira tout. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous dira ce qu'elle pense de l'utilisation par certains des sextoys pour pimenter leur vie sexuelle.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Pierre. Écoutons-la.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Ça fait deux soirs que j'ai des grosses crises d'urticaire qui se répandent pendant une heure à peu près. Ça me brûle, puis ça s'arrête. Alors, on dirait un peu une grosse crise d'allergie. La seule chose que j'ai fait ces deux soirs-là, c'est de prendre un Doliprane contre le mal de tête. Du coup, je me demandais si on pouvait être allergique au paracétamol tout d'un coup à l'âge adulte. Sinon, qui dois-je consulter pour savoir ce qui m'arrive ?
Alors Jimmy, d'abord ce qu'il décrit là, c'est ces boutons, enfin ça le brûle partout, sur tout le corps, et ça dure une heure et puis ça part. Ça ressemble à de l'urticaire, c'est ça ?
Oui, les caractéristiques de l'urticaire, c'est d'avoir une éruption cutanée qui est souvent brutale, qui va démanger, parfois brûler tellement ça démange, qui va toucher des parties du corps, diverses et variées, parfois le visage ou pas. Et vous allez voir une petite éruption avec ce qu'on appelle des papules, c'est-à-dire des boutons en relief, qui sont rouges, qui grattent, qui vont disparaître et réapparaître à d'autres endroits. Et puis tout d'un coup, l'urticaire s'arrête, comme par magie, et c'est quasiment la seule maladie dermatologique où l'éruption peut s'en aller au bout de quelques minutes ou quelques heures.
Alors, est-ce que c'est toujours d'origine allergique, puisque c'est ce qu'il sous-entend, en tout cas ?
Alors non, la cause d'urticaire la plus fréquente, c'est l'urticaire pour laquelle on n'a pas d'explication.
Ah, super !
C'est le plus fréquent. Alors, bien souvent, quand vous avez de l'allergie, c'est très facile. Vous êtes allergique au kiwi, vous mangez un kiwi, vous faites des boutons, paf ! C'est très simple. On oublie qu'il y a d'autres causes d'urticaire, il n'y a pas que l'allergie. Et c'est très fréquent, notamment chez les enfants qui ont fait de l'urticaire virale.
Ah oui.
Ils ont une infection virale quelconque, le nez qui coule, la gorge qui gratte, peu importe. Et puis ils se mettent à faire des boutons.
Ça existe même avec le Covid d'ailleurs, hein. Il y a des urticaires qui sortent parfois.
Exactement,
hein, dans des cas rares,
il y a de l'urticaire chez des adultes. Et puis ensuite, il y a des causes plus rares, mais encore une fois, on fait des bilans et souvent on ne retrouve strictement aucun diagnostic.
Alors, autre question dans cette question, il demande, parce que la seule chose qu'il a fait, donc les deux soirs où il a eu ses crises d'urticaire, c'est de prendre un paracétamol. Est-ce qu'on peut être allergique au paracétamol ?
On peut être allergique à tous les médicaments qui existent sur Terre, même le paracétamol, même si l'allergie est extrêmement rare. En revanche, le paracétamol est un médicament qu'on a souvent eu dans l'enfance et il est quand même rare d'avoir une manifestation allergique après de nombreuses utilisations. En revanche, il a eu simplement une fois du Doliprane dans sa vie, quand il était tout petit. Eh bien, votre système immunitaire se souvient qu'il y avait un peu d'allergie, mais il n'a pas eu suffisamment de doses pour tout d'un coup faire quelque chose de plus sévère. Donc peut-être que c'est le Doliprane qui le rend allergique, mais il va falloir faire des examens.
Bon, dans ce cas précis, en tout cas, pour le coup, je dirais quand même que consulter pour tirer ça au clair, c'est important. Il va voir qui ? Un généraliste ? Un allergologue ?
Avant de consulter, ouais. Je lui recommande de ne plus prendre de paracétamol.
Déjà,
on ne sait jamais, dans un premier temps.
Très bien.
Et puis dans un second temps, effectivement, le généraliste. Et puis faire des tests pour savoir si réellement il est allergique à un médicament.
Ils ont des chances de trouver si c'est le paracétamol ?
Oui, bien sûr, on fait des tests de provocation, on fait sur surveillance, on donne des petites doses. En gros, quelque sorte de paracétamol, et on voit ce qui se passe, mais ça se fait souvent à l'hôpital. Et c'est un parcours du combattant, car les rendez-vous sont extrêmement longs, malheureusement.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. À présent, on va prendre une deuxième question pour vous, celle que nous a laissée Mathieu. Écoutez bien.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Je voudrais savoir s'il existe une formule pour calculer son poids idéal. Personnellement, je mesure 1m62 et pèse 60 kg, mais j'ai vu sur un quiz sur internet que mon poids idéal devrait plutôt être autour de 57 kg. Bon, moi je me trouve pas si mal au final, mais est-ce que je dois vraiment perdre encore 3 kg pour être en meilleure santé ou pas ?
Jimmy, je suis pas certaine d'abord que regarder sur internet, sur un quiz, je sais pas trop quoi, pour connaître son poids idéal, ce soit la meilleure façon de le savoir, de le connaître ?
Non, alors histoire de poids idéal, j'aime pas beaucoup qu'on utilise ce terme. En revanche, quand on parle de surpoids et d'obésité, on ne parle pas d'une qualité ni d'un défaut, ce n'est pas une compétence, ce n'est pas un avantage ou un désavantage. C'est de la pathologie tout simplement. Quand vous êtes en surpoids ou que vous êtes obèse, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas méprisant, ce n'est pas de la grossophobie de dire aux gens qui sont obèses. En revanche, ça peut renvoyer à des pathologies cardiovasculaires, métaboliques, du diabète, de l'hypertension, certains cancers. Donc, il faut bien comprendre que lorsqu'on parle du poids, ce n'est pas pour stigmatiser, mais au contraire, nous, en tant que docteurs, évidemment, c'est pour votre propre santé.
Bon, donc les quiz sur Internet, tout ça, on va laisser tomber. En revanche, il y a quand même un petit repère qui s'appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui peut donner une idée, justement, pas forcément du poids idéal, mais en tout cas, dans quelle zone, rouge, orange, vert, si on se trouve. Hein,
le
c'est
poids
ça
sur la taille au carré vous donne l'IMC, l'indice de masse corporelle, c'est mieux que rien. Si cet indice est au-dessus de 25, vous êtes en surpoids, c'est une définition très simple. Et puis si vous êtes au-dessus de 30, c'est de l'obésité. Et encore une fois, c'est un critère qui n'est pas parfait, mais qui reste quelque chose d'objectif. Car l'image que le miroir peut nous renvoyer est souvent fausse, malheureusement, soit par excès ou par défaut.
Et puis bon, Mathieu, là, il a l'air quand même d'être un tout petit gabarit. Il dit 1m62, 60 kg, c'est juste normal, non, ça enfin, je ne sais pas, pour un homme, ça me paraît bien.
Il faut calculer son IMC, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le tour de taille, parce qu'on peut faire 60 kg et avoir un gros ventre. Un gros ventre n'est pas une insulte, mais c'est un reflet de la graisse viscérale. La graisse viscérale, c'est la graisse qui va s'accumuler sur les organes, qui va entraîner des pathologies dont, par exemple, la maladie du foie gras. Et c'est pas une insulte de dire qu'avoir un gros ventre est pas bon pour la santé. C'est un état de fait. Donc consultez, voyez votre médecin, on n'est pas là pour vous juger.
Merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions. Alors si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions, santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour, c'est vous Isabelle Filioza, bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, bonjour tous et toutes.
Oui, bonjour, vous êtes psychothérapeute et l'auteur de nombreux livres. Alors en rapport avec notre thème du jour, je cite celui-ci, les cahiers Filioza, je dors donc je grandis, chez Nathan Édition, un ouvrage pour les enfants hein, qui est empli d'infos, de quiz pour découvrir en s'amusant les dernières découvertes scientifiques sur le sommeil. Et justement, Isabelle, on va démarrer par ça. Est-ce qu'il faut expliquer aux enfants ce qu'est le sommeil en termes de notions, je veux dire hein, parce que je pense que finalement, nous parents, bon, bah, les coucher, les enfants, bah, tous les soirs, on fait ça. On dit allez hop, au dodo. Mais finalement, même s'ils dorment mal, on ne prend pas toujours le temps de leur expliquer bah, l'importance de ce truc-là. Est-ce que c'est très important et comment on s'y prend ?
Mais c'est tout le projet du livre. Le pari, il est de se dire que si les enfants comprennent à quel point c'est génial le sommeil, s'ils commencent à avoir envie de dormir, ben ça va nous solutionner quand même beaucoup de moments un peu compliqués. Parce que la réalité, c'est que le plus souvent, les enfants n'ont pas envie d'aller dormir. Et puis, même des adultes pensent que le sommeil est un peu une perte de temps. Et que finalement, si on dormait moins, ben ce serait mieux. Mais en fait, non.
Et justement, pour leur expliquer qu'il n'y a pas que les hommes qui dorment, vous mettez dans votre livre justement une page avec des informations sur des animaux. Et on peut se dire que peut-être, si on leur explique de façon rigolote certaines choses sur le sommeil, eh bien par mimétisme, ils vont se dire bah, « finalement, moi aussi ».
Tout à fait. Tout le monde dort. Les êtres vivants dorment. Le moment du sommeil est un moment qui est extrêmement important pour pouvoir nettoyer le cerveau, pour pouvoir guérir un certain nombre de choses. C'est vraiment le moment où on se soigne à l'intérieur, on se prépare, on se répare et on se prépare pour le lendemain. Et donc, c'est vraiment essentiel. Même les animaux qui sont, par exemple, les dauphins qui sont dans l'eau, eh bien, ils ferment un œil, ils dorment d'un côté, une moitié du cerveau à la fois, pour pouvoir quand même non pas se reposer, puisqu'on croit quelquefois que dormir, c'est pour se reposer. Non, on ne se repose absolument pas en dormant. On fait des tas de choses. Notre cerveau turbine à fond. Il se nettoie, il se répare, il apprend, il cultive toutes sortes de choses. Donc, il travaille beaucoup.
Isabelle, des enfants qui ont des difficultés de sommeil, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. On va peut-être parler d'abord des besoins des enfants en général. Est-ce que vraiment, tous les enfants, si on prend des enfants du même âge, ils ont vraiment les mêmes besoins ? Est-ce que, par exemple, on doit tous les coucher à 20h ? Parce que ça, c'est souvent l'heure en France. On dit 20h au dodo. Est-ce que ça, on peut dire ça comme ça ?
Nos enfants ne sont pas des robots, ce sont des humains. Et donc, tous les humains, ben, oui, on est différents chacun les uns des autres. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui sont inscrites génétiquement. Et donc, dans notre biologie personnelle, on va être plutôt du soir ou plutôt du matin. On va avoir besoin de temps de sommeil. Alors, il y a quand même des incontournables. Il est clair qu'un enfant a besoin d'une dizaine d'heures de sommeil, enfin, ça, selon les âges. Mais c'est vrai qu'on ne va pas réduire.
Mais il y a des couches tard et des lèvres tôt, quoi.
Mais il y a quand même, voilà. Et ça, c'est biologique. Si on observe notre enfant, si on a vraiment beaucoup de mal à le réveiller le matin, c'est probablement que c'est franchement pas son heure. Et ça n'est pas, comme on le croit parfois, parce qu'il se couche trop tard le soir. Ça peut aussi être ça, mais ce n'est pas la seule raison. Parce qu'en fait, même s'il se couchait plus tôt, il aurait quand même du mal à se réveiller parce que si c'est un lève-tard, eh bien c'est biologique, c'est inscrit à l'intérieur de lui.
Et malheureusement, même si c'est un lève-tard, eh bien il faut quand même se lever tôt pour aller à l'école. Donc ça veut dire que les rythmes scolaires ne sont pas adaptés forcément au rythme biologique de tous les enfants.
Exactement, Jimmy. Et c'est un très, très grave problème que nous ne mesurons pas encore suffisamment parce que trop d'enfants échouent à l'école simplement parce qu'ils sont obligés d'y aller trop tôt au moment où leur cerveau n'est pas encore réveillé. L'adolescence aussi, c'est vraiment un carnage à l'heure actuelle. On fait venir les adolescents encore plus tôt que les
petits. 8 heures, souvent, oui.
Et ça, c'est scandaleux parce que les adolescents, non seulement il y a les couches tôt et les lèvres tard, mais...
Devraient commencer encore plus tard que les petits, c'est ça ?
En plus, les adolescents remanient leur cerveau à ce moment-là et on a constaté que la sécrétion de mélatonine était décalée de 2 heures.
Oui.
Et donc, un ado ne devrait jamais avoir à se coucher avant 11h minuit et ne pas se réveiller, ne pas se lever avant 9h. Donc, si... on respectait un lever à 8h ou à 9h, eh bien, peut-être nos adolescents réussiraient beaucoup mieux leurs études.
Ouais, mais c'est difficile de leur faire comprendre de le soir d'aller se coucher. Comment est-ce qu'on fait pour les convaincre sans les menacer en disant bah, « Écoute, tu seras mauvais à l'école si tu ne dors pas comme il faut ».
Alors déjà, on n'a pas besoin de leur dire, et surtout faire une menace à un adolescent, tu seras mauvais à l'école, non. Mais par contre, qu'ils comprennent, et c'est l'enjeu de ce livre, c'est leur donner les informations. Moi, je milite plutôt pour qu'on modifie les horaires de l'école. Mmh. Il est essentiel, et ça, il y a de plus en plus de neuroscientifiques qui insistent sur la nécessité, surtout pour l'adolescence, de modifier les horaires, parce que là, presque tous les adolescents ont besoin d'horaires plus tard.
Je suis sûre que vous êtes la psychothérapeute préférée des ados, là, parce que vous venez de dire, Isabelle Fidioza, on va modifier l'école pour les adolescents, ce serait une bonne chose. Nous allons poursuivre cet entretien dans quelques minutes, vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau aujourd'hui, notre invitée, c'est la psychothérapeute Isabelle Fidioza qui nous livre tous ses meilleurs conseils pour avoir des enfants qui dorment sereinement. Alors Isabelle, justement, pour qu'un enfant comprenne bien l'importance du sommeil, il faut peut-être arriver à lui faire comprendre ce qui se passe donc la nuit. Vous l'avez dit, hein, mieux comprendre, ça aide déjà à mettre des choses en action positive. Qu'est-ce qu'on peut leur dire notamment? Et je crois qu'il y a ce que vous écrivez dans le livre le Je dors, donc je grandis, les cahiers Fidioza, c'est que c'est un grand nettoyage. Comment on explique ce grand nettoyage aux enfants?
Alors, l'objectif est dans le livre, je lance les enfants dans une activité pour qu'ils découvrent et comprennent par eux-mêmes. Parce qu'en fait, ce que nous expliquons aux enfants, eh bien, ça s'entasse comme information, mais quelquefois, ils ne sont pas forcément demandeurs de cette information, donc ils ne vont pas forcément la saisir. Et donc, on peut commencer par leur poser une question. À ton avis, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Et regarde, parce qu'il y a des images sur Internet aussi, on peut regarder que pendant le sommeil, il y a tout un... Les canaux entre les circuits, entre les neurones, s'écartent pour permettre de grandes... Vraiment, c'est le grand nettoyage. Alors, ce n'est pas de l'eau, c'est du liquide céphalo-rachidien qui va récupérer les déchets et va les emmener. Donc, de manière générale, il n'est pas nécessaire d'expliquer aux enfants, mais plutôt de les aider à découvrir. Alors ça, c'est vrai que ce sont des informations qui sont assez nouvelles. Et donc, qu'on trouve dans le livre. Voilà. J'ai travaillé avec une chercheuse de l'INSERM pour vraiment être très précise sur les dernières ressources scientifiques sur la question. C'est important de mesurer tout ce qui se passe.
Alors, parfois, certains enfants rechignent à aller se coucher puisque, justement, nous, parents, avons loupé les petits signaux qui annoncent l'étreinte du sommeil, le moment où il est prédisposé à aller s'endormir. On va le louper. Est-ce que vous avez... quelques signes qui ne trompent pas chez les enfants?
Alors, qui ne trompent pas forcément, en fait, c'est nous avons à être attentifs aux signes que notre enfant va fournir, parce que chacun est différent. Mais de manière générale, dès qu'un enfant, alors là, on parle des petits enfants dont on surveille pour savoir à quel moment il va être fatigué et tout, eh bien, c'est quand ils montent leurs mains vers le visage. On va observer que l'enfant, voilà, il commence à monter sa main, il commence à avoir des... De temps en temps, le regard qui va un peu dans le vague, il y a ces activités qui diminuent ou alors au contraire qui se met à s'exciter un peu trop. S'il se met à s'exciter, oh là, je viens juste de
ça
dépasser
connais, hein.
le
ça
moment.
Ça, je connais bien.
Voilà, mais c'est parce qu'on est en lutte contre le sommeil.
Alors, donc, quand on voit tous ces signes-là, on les met au lit, c'est le moment propice pour y aller. Mais il y a des enfants vraiment qui ont besoin d'un rituel. D'ailleurs, c'est bien un rituel pour se coucher, une berceuse, des histoires, des câlins. Comment on fait quand le rituel, c'est presque une question perso que je vous pose, dure des heures? Encore une chanson, maman, encore un câlin, encore un bisou. Comment on fait pour arrêter?
Mais probablement, c'est que l'horaire auquel on couche l'enfant n'est pas son horaire.
Ah oui.
Parce que sinon, ça se passerait de manière plus aisée. Alors, il peut y avoir aussi que l'enfant a une blessure, un souci dans son cœur et qu'il a besoin d'exprimer ce souci et que donc, quelque chose se passe mal à l'école ou il y a quelque chose qui vit mal avec ses petits amis ou voilà, il y a quelque chose qui est douloureux et il n'ose pas le dire. Il n'y pense même peut-être pas d'ailleurs, mais il y a ce nœud à l'intérieur de l'enfant de stress. Et donc, quand maman est là, il se sent mieux. Et dès que maman s'en va, il y a le stress qui monte.
Ah, oui.
Et du coup, il ne peut pas s'endormir. Et du coup, il veut maman ceci, maman cela. Mais donc, si un enfant reveut différentes choses dans le rituel, ça n'est plus une histoire de rituel. Ça veut dire qu'il est en train de demander à maman ou à papa de rester davantage. Ça veut dire qu'il a un besoin. Mais le besoin n'est pas une histoire supplémentaire. Le besoin, c'est de pouvoir parler de ce qu'il a dans son cœur.
Et justement, comment on les aide à évacuer ce stress qu'ils ont pu accumuler sans trop parfois en avoir conscience, comme vous dites ?
On peut jouer. C'est le truc le plus efficace avec les enfants de tous âges, finalement. Voilà, si on joue 20 minutes avec l'enfant tous les soirs, avec des petits personnages et tout, il va mettre... il met en scène, en général, ce qui lui blesse.
La boîte à soucis.
Attentif. La boîte à soucis, c'est une petite boîte. On peut faire la boîte à soucis ou les poupées de soucis. Mais l'idée, c'est les soucis que j'ai. Donc il faut voir, on peut avoir une jolie petite boîte, on construit sa propre boîte. Dans le livre, on propose une boîte à construire. Mais donc c'est une boîte dans laquelle j'ai un souci dans mon cœur. Bon, je ne peux pas le résoudre ce soir, mais sachant ça, eh bien, je mets mon souci dans la boîte. Et donc je ferme la boîte, je réouvrirai la boîte avec papa ou avec maman un jour pour qu'on parle de ce souci, bien sûr. C'est très important pour les parents. Je ne l'ai pas écrit dans le livre, mais c'est très important de faire attention aux soucis qui sont dans la boîte. On ne les laisse pas enfermés dans la boîte sans s'en occuper, parce qu'au bout d'un moment, évidemment, les soucis finissent par
ressortir. Ça fait beaucoup de soucis en plus si on ne les évacue pas, effectivement.
Voilà.
Isabelle Filioza, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous Isabelle Filioza. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute et qu'avec vous on parle cet après-midi du sommeil des enfants. Alors c'est un fait, les enfants, les études le montrent, aujourd'hui ils sont nombreux à ne pas dormir assez. D'ailleurs vous proposez un test aux enfants pour savoir s'ils ont leur compte de sommeil, se coucher une heure plus tôt pour voir. Et observer.
C'est ça. En fait, ça permet à l'enfant de découvrir son propre rythme de sommeil. Parce qu'on est trop habitué à s'endormir à des heures fixes qui sont les heures familiales ou qui sont les heures après le film ou après les devoirs ou après ceci, cela. Bref, on a une routine qui nous encadre parfois trop et ne nous permet pas de connaître notre véritable heure d'endormissement et donc de réveil.
Alors certains enfants ont du mal à dormir puisque finalement parfois ils vont se réveiller durant la nuit et puis ils vont faire une fixation à cause de ce réveil et puis ça va devenir un cercle vicieux et vous dites tout simplement que se réveiller la nuit, eh bien c'est pas un problème, c'est pas une maladie, c'est presque normal.
C'est tout à fait normal. En fait, nous nous réveillons tous plusieurs fois pendant la nuit sans se rendre compte. En fait, on se rendort quasi immédiatement. Mais il y a ce moment où ce sont des cycles dans le sommeil. Et donc, on plonge plus ou moins profondément. Stade 1, stade 2, stade 3, hop, on remonte, etc. Et donc, c'est naturel de s'éveiller. Et parfois, surtout quand on est un peu trop stressé dans sa vie, le fait de se réveiller nous rend trop alerte et du coup on se réveille carrément, on ouvre les yeux et on peut paniquer et effectivement faire une fixation, se dire ah c'est pas bien.
Alors des enfants qui se réveillent c'est aussi parce qu'ils ont fait des beaux rêves ou des mauvais rêves qui les ont un peu trop remués. Comment on explique le phénomène des rêves aux enfants? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans leur cerveau?
En fait, à chaque fois que nous vivons quelque chose, que nous vivons une expérience, nos neurones sont activés et il y a une loi dans le cerveau. Tous les neurones qui sont activés en même temps vont se connecter. Donc, pendant le sommeil, pendant la phase spécifique du sommeil qu'on appelle paradoxal, cette phase de sommeil rapide, celle pendant laquelle on rêve le plus, eh bien, où les rêves sont les plus élaborés, en fait, tous les neurones qui ont été activés dans la journée sont en train de se connecter. Ce qui fait qu'on voit nos images dans le rêve, elles sont extrêmement éparses, on relie des choses de notre journée d'aujourd'hui, mais aussi avec des choses d'avant, des choses complètement fantasmatiques, etc. C'est notre cerveau qui produit toutes ces images et c'est en relation avec ce travail de connectivité qui permet l'apprentissage.
Alors en général, ils sont contents de faire des rêves, mais un peu moins des cauchemars. Et justement, comment est-ce qu'on fait lorsqu'un enfant se réveille et nous dit « j'ai fait un gros cauchemar et j'ai eu très peur ».
Alors on peut lui permettre, alors ça dépend de l'heure, si juste on est en pleine nuit, on va juste faire un câlin et l'aider à se rendormir. Mais le lendemain, on va peut-être lui faire parler davantage de ce cauchemar. Parfois, c'est tellement fort qu'ils ont besoin d'en parler pendant la nuit. Et donc là, on va écouter ce qu'ils disent. Et le cauchemar, c'est important que nous, les adultes, on sache que les images qu'ils voient dans le cauchemar ne sont pas ce que l'enfant pense. Il fait le cauchemar que maman va mourir dans la maison en feu, ça ne veut pas dire qu'il a forcément peur que maman va mourir dans le feu. Mais donc, on va aller un petit peu plus loin. Ça peut vouloir dire qu'il a été en colère contre maman aujourd'hui et que ça lui fait tellement peur d'avoir été en colère que du coup, il imagine qu'il a eu le pouvoir de la
tuer. Ça peut être un gros morceau de colère, voilà. Un cauchemar.
Ce sont des émotions qui sont coincés à l'intérieur et que l'enfant n'a pas encore pu élaborer suffisamment. Donc, nous allons accompagner l'enfant pour qu'il élabore toutes ses émotions.
Pour terminer, Isabelle, il y a un autre argument qu'on peut donner aux enfants pour leur faire intégrer l'importance du sommeil. C'est leur faire intégrer que grâce à lui, grâce au sommeil, on grandit. Expliquez-nous.
Et littéralement, grâce au sommeil, on grandit. L'hormone de croissance est sécrétée pendant le sommeil. Alors, elle est sécrétée un petit peu toute la journée, mais plus particulièrement pendant le sommeil. Et donc, quand on dort, on grandit. Quelquefois, il y a des adultes qui disent « Ah, mais c'est incroyable, t'as pris... » Alors, on ne prend pas 10 cm en une nuit, évidemment. Mais quand même, oui, c'est vrai, on grandit pendant la nuit. On grandit et on répare. On répare et on permet au corps de grandir.
Et c'est bien documenté chez les enfants qui ont des troubles du sommeil. Un enfant qui va faire des apnées du sommeil, eh bien une des façons de le détecter, c'est des troubles de la croissance. L'enfant ne grandit pas. Ça ne veut pas dire que tous les enfants petits dorment mal, mais ça veut dire qu'il y a vraiment un pouvoir extraordinaire du sommeil sur la croissance des enfants. Et donc c'est vrai, va te coucher, tu vas grandir. Un peu comme papa ou maman, voilà. C'est une bonne promesse.
Si on dit va te coucher, tu vas grandir, il ne va pas le faire. Mais si on lui montre, et c'est, en fait, l'objectif, c'est aider les parents dans mon petit bouquin, c'est permettre à l'enfant de le découvrir par lui-même. Parce que si c'est lui qui le découvre, il va être tout fier de dire à maman « Regarde maman, je vais grandir !» ou « Regarde papa, je vais grandir en dormant. » Mais si on lui dit nos parents nous l'ont dit, « Va dormir, tu vas grandir. » Mais on ne l'a pas fait pour autant. Donc, il ne faut pas oublier cette dimension. Ça ne va pas forcément aider.
Merci beaucoup Isabelle Fidioza d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je rappelle votre livre à destination des enfants, « Les Caliers Fidioza, je dors donc je grandis » chez Nathan Édition. Merci encore Isabelle.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé, Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Et à présent, on va passer à notre chronique Les Bobos du quotidien, qui porte très bien son nom aujourd'hui puisqu'on fait le point sur les bobos que l'on peut soigner avec chez soi, avec ce qu'on a en stock dans sa pharmacie familiale. Avant ça, nous vous avons interrogé sur le sujet. Vous, pratiquez-vous l'automédication ou courez-vous systématiquement chez le médecin pour avoir un avis? Avez-vous certaines hésitations à rouvrir une boîte d'antibiotiques utilisée il y a quelques mois pour autre chose? Notre reporter Valentin Piovesan vous a posé toutes ces questions, on écoute tout de suite son micro-trottoir.
L'automédication, j'ai pas vraiment de définition, mais je pense que c'est le fait de se soigner soi-même.
C'est des gens qui vont prescrire leurs propres médicaments, entre guillemets.
On décide, en fonction de ses symptômes, de prendre tel médicament. Par exemple, on a mal à la tête, on va dire je vais prendre un doliprane, sans pour autant avoir une prescription d'un médecin.
Quand j'ai des maux de tête, des maux de ventre, de la douleur, ouais, je me soigne moi-même.
Je pense être un des premiers à le faire. Voilà, je vais jamais chez le médecin. Si j'y vais une fois dans l'année, c'est déjà bien.
Parce que ma maman faisait beaucoup d'automédication, donc j'ai pris un petit peu le pli. Et c'est vrai que pareil, avec trois enfants, on va pas forcément tout de suite chez le médecin. Quand il y a une petite toux ou une petite fièvre, on donne du doliprane facilement.
On s'habitue beaucoup à des grosses doses de médication sans vraiment réaliser l'impact que ça a sur nous.
Je pense que ça doit dépendre de la maladie. C'est-à-dire que si la personne elle choisit de faire appel à l'automédication, quand c'est une maladie qui est plus ou moins grave, je pense que ça peut avoir des impacts assez sérieux si elle prend pas les bons médicaments.
Oui, bien sûr, bah oui, parce que tous les médicaments, il y a des risques, il y a des effets indésirables, donc faut faire attention, quoi.
Jimmy, alors d'abord, l'automédication, est-ce qu'on sait si les Français la pratiquent beaucoup?
Eh bien oui, c'est un phénomène qui est très important. 8 Français sur 10 ont eu recours à l'automédication en 2018, mais finalement c'est assez stable, selon le chiffre de l'AFIPA. Alors vous savez pas ce que c'est?
C'est les fabricants, hein, c'est
exactement,
ça?
Exactement, ouais. C'est la Fédération des fabricants de produits d'automédication et elle va concerner essentiellement les médicaments en vente libre, donc sans ordonnance ou sans prescription obligatoire. Et ça touche plutôt un peu plus les femmes que les hommes. même si globalement on est un peu équivalent. Et petite info supplémentaire, l'automédication, comme les virus, a une saisonnalité. Et donc forcément, on y recourt majoritairement en hiver, et dans 80% des cas, et beaucoup moins au printemps et en été.
Alors si c'est en hiver qu'on fait le plus d'automédication, c'est parce que j'imagine que le nez qui coule, c'est un peu ce qui conduit le plus à jouer tout seul au docteur.
Évidemment, alors cette année fait peut-être exception avec le Covid, mais c'est vrai qu'on utilise les médicaments en automédication en premier lieu contre les rhumes, l'état grippal dans 50% du temps, et puis ensuite les maux de tête et les maux de gorge. Raison pour laquelle les gens vont justement demander conseil aux pharmaciens.
Bon, justement, Jimmy, venons-en au conseil. Vous avez dit on soigne surtout pour le rhume, l'état grippal, on utilise l'automédication pour ça. Cette année, c'est peut-être un peu particulier vu qu'il y a le Covid, tout état grippal, c'est vigilant, ça, pas forcément automédication. Quelles sont les bonnes précautions à prendre, Jimmy, quand on se soigne tout seul?
Alors, si jamais vous avez un syndrome grippal, le nez qui coule, mal à la gorge, la bronchite, vous ne savez pas, faites un test de Covid. Parce qu'en ce moment, et plus que jamais, il faut être prudent, il faut être vigilant en attendant voilà, d'y voir un peu plus clair. Et puis ensuite, demandez conseil à votre pharmacien. Il ne faut pas oublier que le pharmacien, c'est pas un épicier.
C'est un professionnel de
santé.
Il
a fait des études et il n'est pas là pour juste vous vendre du paracétamol et gagner de l'argent. Non, le rôle du pharmacien, c'est un pharmacien conseil. C'est le rôle justement de vous donner ce qu'il faut, de vous dire à un moment, non, stop, là ça dépasse mon champ de compétences où je pense que vous devez avoir un avis médical car les symptômes classiques, ça doit s'améliorer en 2 ou 3 jours, mais quand ça persiste, il faut consulter.
Très bien. Et la plus grande précaution, je crois qu'il faut avoir surtout, enfin, en automédication, c'est que c'est vis-à-vis des traitements, des médicaments finalement qu'on a déjà chez soi. La petite boîte d'antibiotiques qu'on a utilisée la dernière fois pour le petit dernier, ça, faut faire gaffe, on la réutilise pas n'importe comment.
Exactement. Et c'est pas parce que ça a marché la fois d'avant qu'il y avait une angine et qu'il reste un peu d'amoxicilline parce qu'on se dit pourquoi pas et que là il recommence à avoir mal à la gauche qu'il faut la réutiliser. On remet les compteurs à zéro. Vous faites même une téléconsultation si jamais vous avez un doute. Vous passez un coup de fil à votre médecin ou encore une fois, j'insiste, le pharmacien et le professionnel de santé aussi de première nécessité et de première proximité.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy, pour tous ces conseils particulièrement importants dans la période actuelle.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h pour cette dernière séquence de l'émission. C'est Catherine Blanc qui nous rejoint tout de suite en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors Catherine, aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question de Jean-François. Je vous la lis tout de suite. Une envie de pimenter mon couple. Pour ça, je souhaite proposer à ma femme d'essayer ensemble des sextoys. Comment lui en parler? Risque-t-elle de mal le prendre? Va-t-elle penser que je souhaite la remplacer? Alors Catherine, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de couples. On en a déjà parlé souvent dans cette chronique. Qui ont recours au sextoy pour pimenter leur vie de couple. Mais pourquoi cette gêne, finalement, de Jean-François? Alors, il ne dit pas depuis combien de temps il est avec son épouse, mais bon, pourquoi ne pas juste aborder la question et puis verra bien comment elle répond.
Alors, en fait, on ne sait pas trop, mais ce qui est amusant, c'est
Jean-François, j'imagine qu'il n'est pas tout jeune, parce que c'est un prénom, peut-être quand même, il n'a pas 15 ans, quoi, c'est ça?
Bon, il en a peut-être 50, mais le fait est que ce qui est amusant, c'est qu'ils disent, est-ce qu'elle pourrait imaginer que je souhaite la remplacer? Ce qui met la puce à l'oreille de la psy que je suis,
ben
évidemment.
Oui, pourquoi il dit ça? J'ai pas compris moi non plus. Allez-y.
Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme s'il voulait la remplacer, mais qu'il refoule ce désir, que donc du coup, il voudrait bien aller voir une autre, mais ce n'est pas possible. Donc du coup, il essaie de faire entrer autre chose qui puisse trouver...
Bon, je pense que sa femme a préféré les sextoys que la voisine. Ça,
que la
sûr.
Voisine, absolument. Mais donc en fait, il a toute une pudeur par rapport au sujet effectivement des sextoys. Et tant mieux, on n'est pas obligé de trouver ça normal, souhaitable. Ou obligatoire, qui plus est. Mais en tout cas, manifestement, il est en conflit avec lui-même, c'est-à-dire qu'il a envie de pimenter les choses, mais il a aussi peut-être fantasmé un ailleurs et un autrement si je n'étais pas avec elle, et qu'à défaut de pouvoir de tout foutre en l'air, eh bien évidemment, il se dit qu'il pourrait faire entrer dans leur érotisme, dans leur jeu amoureux des sextoys, tout en ayant le sentiment que même en parler, c'est déjà... laisser penser qu'il est allé réfléchir quelque chose ailleurs ou prendre l'idée ailleurs, c'est-à-dire dans la pornographie, c'est-à-dire dans un film très érotique ou peut-être une discussion avec des copains ou qui sait, avec une maîtresse. Donc en fait, c'est souvent ce qui nous empêche d'en parler, c'est qu'on craint que l'autre se demande d'où on sort l'idée et que donc dès lors, ça raconte que nous sommes au moins en pensée ou dans les faits déjà dans un ailleurs.
Est-ce qu'il pourrait pas jouer la carte de l'humour, en fait, finalement? Parce que finalement, bon, ok, il va peut-être amener des sextoys, puis en plus, il y a sextoys et sextoys, hein, il n'est peut-être pas obligé de passer tout de suite à l'artillerie lourde. Mm-hmm. Est-ce qu'en utilisant l'humour, finalement, peut-être ça pourrait pas passer de proposer ça? Je ne veux pas dire qu'elle va vouloir les utiliser, mais c'est une manière d'aborder la chose, quoi.
Oh, je vous rejoins complètement là-dessus, Mélanie.
L'humour a sa place dans la sexualité. Hein.
L'humour a plus que jamais sa place dans la sexualité, ce qui permet tous nos loupés, ce qui permet de ne pas faire de malentendus des affaires d'État. Ce qui permet justement d'exprimer, parce que nos fantasmes, rendons-nous à l'évidence que parfois ils sont quand même suffisamment tordues et presque drôlesques, et que si on les prend de façon drôlesque, justement, on n'a pas l'air d'être des serial killers les uns et les autres. Donc, je crois que c'est bien de passer par l'humour en disant « je ne sais pas très bien à quoi ça sert » ou « j'ai entendu » ou « on a entendu », »,« on en entend parler tout le temps », et si on s'amusait, « mais non, mais t'es fou, mais si, allez, viens, viens !» Et du coup, ça rend les choses, j'allais dire, presque enfantines. Enfin, le mot n'est pas très bien choisi, mais en tout cas, ça donne un peu de naïveté pour aborder le sujet de l'érotisation gadgetisée.
Bon, et comment, on va dire, démarrer, puisque apparemment, c'est quelque chose qui le tente. Il y en a pour tous les goûts, on l'a dit, hein, des sextoys, ça va des choses complètement classiques, du petit canard à des choses bien plus compliquées. Par quoi on pourrait le conseiller de démarrer pour y aller
doucement?
Alors là,
vous me posez une question. Je n'ai pas pris mon catalogue, Mélanie, excusez-moi.
Oui, on n'est pas obligé de faire une prescription, mais bon, on peut commencer par des petites plumes. C'est un sextoy, une plume?
De toute façon, un sextoy, c'est un jeu érotique, hein, ou un jeu qui va permettre d'érotiser la relation. Donc, en effet, la plume peut l'être, mais faut-il avoir la compétence à raconter toute une histoire avec une plume? Certains, à part vous avoir fait un petit tic-tac comme ça sur l'avant-bras, ils sont tout d'un coup tout à fait démunis et le jeu est déjà arrêté. Donc je pense que d'abord, ne pas acheter des choses pour en faire la surprise à quelqu'un qui
ça
va tomber.
Ça peut être mal perçu, voilà.
Ça peut être
bon, mieux
très
de prévenir avant,
oui.
Quitte à lui dire, viens, on les commande ensemble, ça
c'est
peut être rigolo. Comme
ouais. Quelle couleur, parce que pour une femme, ça sera plutôt par la couleur que ça paraîtra moins agressif, ou par la forme, ou par la taille, ou par justement le symbolisme, parce que quand c'est un petit canard vibrant, on voit bien qu'on y met quelque chose de soi-disant enfantin pour quelque chose qui ne l'est pas. Donc voilà, je crois qu'il vaut mieux partager cette recherche.
La sélection, déjà ensemble, c'est mieux plutôt
voilà.
Que la surprise.
Et si ça se trouve, on ne l'achète pas, mais rien que d'avoir ri sur ce sujet, on a presque déjà tout érotisé, et peut-être qu'on fabriquera son godemiché avec quelque chose qu'on a déjà à la maison.
Très bien, merci beaucoup Catherine. Un peu de créativité, il y a parfois
oui,
il y a ce qu'il
oui,
faut dans
oui.
Les placards. Hein.
Mais merci. Exactement.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Je vous dis donc à demain, rendez-vous à 15h.